RFI Soir.
Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, nous sommes à deux jours du second tour de l'élection présidentielle au Brésil et le grand favori c'est Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, nostalgique de la dictature et qui a su séduire avec son discours ultra sécuritaire dans un pays gangréné par la violence et la corruption. Plus étonnant, les Brésiliens du Portugal, ils sont 40 000 à pouvoir voter. Ces Brésiliens donc ont choisi à 56% au premier tour Jair Bolsonaro, un choc pour les opposants qui manifestent à Lisbonne et qui appelle à voter pour la démocratie. Reportage Marilyn Darcy.
Pas lui, pas question. Les Brésiliens du Portugal opposés à Bolsonaro ont donné de la voix au cours d'une manifestation qui a réuni plusieurs centaines de personnes sur la place Camões le 21 octobre. Que la communauté brésilienne du Portugal ait voté à 56% pour le candidat aux propos extrémistes lors du premier tour de la présidentielle a surpris et choqué. Un résultat électoral qui provoque l'inquiétude des opposants. Caio vit au Portugal depuis un an.
J'habite à Lisbonne et j'y travaille. J'ai bien l'intention de rester, surtout avec la tournure que ça prend dans mon pays. Si Bolsonaro gagne, c'est sûr que je ne rentrerai pas. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Du point de vue politique, le Portugal, c'est l'opposé du Brésil. Dans ce pays, on célèbre la fin du fascisme depuis 1975. C'est un vrai paradoxe que les Brésiliens qui vivent ici dans la tranquillité rêvent d'implanter le fascisme chez eux.
Mariana ressent la même inquiétude. Elle vit à Lisbonne depuis 5 ans et elle y a passé son doctorat d'histoire. Depuis, elle enchaîne les missions de recherche. Jusque-là, elle n'avait pas écarté l'idée de rentrer dans son pays, mais la violence des partisans du Bolsonaro contre les homosexuels, les femmes, les noirs et les pauvres lui fait peur.
Je n'arrive pas à digérer le résultat, c'est quand même dingue. Les Brésiliens d'ici n'ont pas à se plaindre. Le Portugal est en avance, toutes les questions sociales et de mœurs ont déjà été débattues. Elles ne posent plus problème. Et pourtant, j'ai entendu un compatriote qui disait que le vote Bolsonaro, c'était un vote contre toutes ces conneries. Les questions de genre, l'avortement, tout ça. Stop, ça va, ce sont au contraire des débats qui agitent un tant soit peu tous les pays développés. Ce n'est pas seulement une affaire brésilienne.
Pour Mariana, l'historienne, les Brésiliens sont devenus amnésiques. Ils ont oublié les crimes commis sous la dictature militaire entre 1964 et 1987. La répression, la torture, la censure. Le programme de Jair Bolsonaro n'est pas pour la rassurer.
Je crains vraiment la suite pour mon pays. Les perspectives sont vraiment sombres pour nous, les universitaires et les professeurs. Le programme gouvernemental prévoit de geler les finances publiques de l'éducation, de la santé et de la culture pour 20 ans. Bolsonaro est de toute façon contre toute mesure qui pourrait être considérée comme sensée.
Place Camões, au cœur de Lisbonne, les manifestants tentent de se rassurer en écoutant des rappeurs provocateurs. À Lisbonne, les Brésiliens peuvent compter sur la Casa do Brasil, la Maison du Brésil. Cette association a pour objectif de faciliter l'intégration des immigrés. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance au Portugal pour une vie meilleure. Outre les conseils administratifs et juridiques, la Casa do Brasil organise des groupes de parole pour lutter contre l'isolement. Cynthia Paula est présidente de l'association. Elle observe des différences au sein de l'actuelle vague d'immigration brésilienne.
Les gens viennent pour le travail, mais on observe aussi l'arrivée d'étudiants, de petits patrons. Et nous notons une différence importante avec les vagues d'immigration antérieures. Les gens viennent non plus pour envoyer de l'argent au Brésil, mais pour une meilleure qualité de vie. Nous le constatons ici, ce sont de plus en plus des familles entières qui s'installent au Portugal.
Pour la responsable de la Casa do Brasil, le résultat du candidat Bolsonaro au Portugal est un choc, d'autant plus que les électeurs vivent dans un contexte portugais de sécurité et d'entraide.
Il faut prendre le temps de comprendre le vote. Au Brésil, on n'a pas réfléchi à l'histoire du pays, compris l'importance de la démocratie et de la liberté. Ce travail n'a pas été fait et on le ressent bien chez ceux qui émigrent ici. Pour nous, à la Casa do Brasil, c'est vraiment quelque chose de très triste.
Juliana Miranda, correspondante à Lisbonne de la Folha de São Paulo, avance une autre explication. Le discours anticorruption du candidat Bolsonaro a séduit la classe des immigrés les plus défavorisés, comme les classes moyennes.
Ce sont des gens plus éduqués, avec plus de pouvoir d'achat, qui viennent ici depuis 4 ans. Et ils sont séduits par le discours économique de Bolsonaro, un discours qui prône le libéralisme, les privatisations, et qui fonctionne aussi bien auprès des plus défavorisés que des plus riches.
Les riches brésiliens s'intéressent de plus en plus au Portugal, qui les attire en attribuant plus facilement des visas contre l'investissement. Mais ils misent sans complexe sur l'ultra-droitier Bolsonaro pour protéger leurs biens accumulés au Brésil. Verdict dans les urnes dimanche prochain.
The meeting point of the world. Istanbul New Airport is opening soon. Istanbul New Airport, established on an area of 76.5 million square meters.
Lundi, jour de fête nationale en Turquie, un jour bien choisi par le président Erdogan pour inaugurer son projet pharaonique, vous l'avez compris, le nouvel aéroport d'Istanbul, appelé à devenir le plus grand du monde. Depuis le début des travaux menés à marche forcée, le projet ne manque pas de détracteurs qui dénoncent une infrastructure démesurée et une catastrophe écologique. Reportage à Nandlaoui.
Quiconque s'envole ces derniers jours à bord d'un avion de Turkish Airlines, la compagnie nationale turque, est prié de regarder un petit film publicitaire. En turc puis en anglais, les passagers découvrent le nouvel aéroport d'Istanbul et ses dimensions hors normes. Construit sur un terrain de plus de 76 millions de mètres carrés, il comptera à terme 6 pistes dont pourront décoller chaque année 200 millions de voyageurs. Ce sera le plus grand du monde. Les deux aéroports de la mégapole turque, Atatürk en Europe, Sabiha Gökçen en Asie, 90 millions de passagers à eux deux, sont en passe d'être saturés. Le trafic du premier a doublé en 6 ans, tandis que celui du second triplé. Mais le nouvel aéroport ne complétera pas les deux autres. Il remplacera Atatürk, ce qui est une erreur, selon Orhan Demir. Ce spécialiste des transports juge le projet démesuré.
Regardez les aéroports des grandes villes du monde. Londres, Heathrow, Pékin, Paris, Moscou. Leur trafic ne dépasse pas 90 millions de passagers. En l'état actuel de l'aviation, vous ne pouvez pas étirer indéfiniment la capacité d'un aéroport, au sens du nombre d'appareils qui peuvent décoller et atterrir en même temps. Ce n'est pas un hasard si Londres ou Moscou ont 3 ou 4 aéroports internationaux, et non pas un seul aéroport d'une capacité de 150 ou 200 millions de passagers.
Selon ce spécialiste, non seulement les autorités turques ont vu beaucoup trop grand, elles ont aussi agi trop tôt. Les aéroports existants auraient pu être agrandis, explique Orhan Demir, ce qui aurait évité, en ces temps difficiles pour l'économie turque, d'investir dans l'aéroport le plus cher du monde, plus de 26 milliards d'euros pour le consortium bâtisseur. Cela aurait aussi épargné les forêts du nord d'Istanbul, où pousse l'infrastructure géante. Orhan Demir.
Depuis 1980 et l'élaboration du premier plan d'aménagement d'Istanbul, sur lequel j'avais travaillé et qu'on appelle la Constitution d'Istanbul, tous les plans excluaient catégoriquement d'étendre la ville vers le nord pour protéger ces espaces verts considérés comme le poumon de la mégapole. Il a toujours été question d'étendre Istanbul d'ouest en est, le long de la mer de Marmara. On a violé cette constitution.
Des arbres s'étendaient ainsi sur près de 80% du terrain où le nouvel aéroport sort de terre depuis mai 2015. Et il n'y avait pas que des arbres, s'insurge l'urbaniste Ayşe Yıkıcı, membre de l'association de défense des forêts du nord d'Istanbul.
C'était des terres agricoles incroyablement fertiles, des réserves d'eau potable, une faune extraordinaire, des sangliers aux loups, des écureuils aux insectes, une flore tout aussi riche avec des plantes uniques au monde. Bref, un véritable écosystème. Voilà ce qu'on a détruit et les conséquences sont déjà visibles. Dans les zones habitées du nord d'Istanbul, les habitants constatent un nombre de plus en plus élevé d'oiseaux morts, sans parler des effondrements de terrain sur le chantier, au moins 3 depuis le début, puisqu'on a quand même été construire un aéroport géant sur un sol friable.
Pour les forêts du nord d'Istanbul, il semble qu'il soit déjà trop tard. Le nouvel aéroport sera inauguré ce 29 octobre, jour de fête nationale, par Recep Tayyip Erdogan en personne. Initialement, l'infrastructure devait être opérationnelle à cette date, avec une capacité de départ de 90 millions de passagers par an. En réalité, elle ne le sera, sauf nouveau retard, qu'au 31 décembre. Fin octobre, la compagnie Turkish Airlines ne lancera ainsi que 5 destinations au départ de la nouvelle piste: Izmir, Antalya, Ankara, Erjan en Chypre Nord et Bakou en Azerbaïdjan. Pour Nihat Demir, secrétaire général du syndicat du bâtiment Dev Yapı İş, c'est une folie que d'inaugurer un tel projet un peu plus de 3 ans après le début des travaux.
Il était évident que l'aéroport ne serait pas prêt le 29 octobre. Mais au lieu de faire les choses comme il faut, on force les ouvriers à travailler dans l'urgence. Par exemple, lorsque vous coulez du béton, il faut attendre au moins une semaine pour qu'il sèche et se solidifie. Je peux vous garantir que sur le chantier de l'aéroport, on ne respecte pas cette durée et c'est totalement illégal. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y aura des risques d'effondrement. Le 29 octobre, ils vont inaugurer une piste uniquement pour la propagande, au détriment de la sécurité.
Des accusations graves dans un contexte très tendu sur le chantier de l'aéroport. Le 14 septembre, des centaines d'ouvriers ont fait grève pour protester contre leurs conditions de travail. La police est intervenue, 600 travailleurs ont été placés en garde à vue, puis licenciés, et une vingtaine d'entre eux sont toujours en prison. Les manifestants dénonçaient notamment l'omerta sur les blessés et les morts parmi les ouvriers. 27 décès depuis le début, selon le gouvernement, beaucoup plus selon les syndicats et selon Cemal Özder, un ouvrier de l'aéroport licencié en mars après avoir évoqué ce sujet dans la presse.
La première cause de décès, ce sont les chutes, suivies par les électrocutions. Quand il pleut, l'eau ruisselle sur les câbles et les ouvriers se prennent des décharges. Ça pourrait être évité très simplement avec des disjoncteurs, non ? Tant d'ouvriers sont morts dans des conditions absurdes. Leurs familles sont réduites au silence avec de grosses sommes d'argent. Rendez-vous compte, les ambulances ont ordre de ne pas allumer leurs sirènes pour que les accidents s'ébruitent le moins possible sur le chantier.
Un chantier entièrement cerné de gendarmes, de sorte que les journalistes et même les députés d'opposition ne puissent pas y avoir accès. L'infrastructure géante est toutefois loin d'avoir épuisé les polémiques, notamment celles qui pourraient éclater dès ce 29 octobre, lorsque sera dévoilé le nom du nouvel aéroport. Près de 300 000 internautes ont signé une pétition réclamant qu'ils gardent le nom d'Atatürk, fondateur de la République de Turquie. Recep Tayyip Erdogan pourrait en avoir décidé autrement.
Le plastique qu'on froisse, qu'on découpe, le plastique est la bête noire des défenseurs de l'environnement. Selon l'ONU, cette matière dérivée du pétrole, si pratique, compose jusqu'à 80% des déchets qui polluent les océans. Il y a 2 jours, à Strasbourg, le Parlement européen a donc voté l'interdiction de ces objets plastiques jetables, comme les couverts, les pailles, les bouteilles ou encore les gobelets. Une première victoire pour les associations et les écologistes ou encore les eurodéputés qui manifestaient à Strasbourg. Wilhelm Munoz-Boileau était sur place.
Munis de sacs plastiques biodégradables et de pinces à déchets, ils sont une cinquantaine réunis ce matin-là devant le Parlement européen de Strasbourg. Parmi eux, Anna Grill de l'association World Cleanup Day France.
Alors l'action d'aujourd'hui, clairement, elle consiste à lutter contre l'usage en fait de plastique à usage unique, type les gobelets, les ballons en plastique, les tiges plastiques de coton-tige. Enfin voilà, tous ces objets plastiques à usage unique qui envahissent nos vies et nos poubelles et donc le bord des routes, les forêts. Enfin voilà. Alors on est à une des entrées principales du Parlement et on va aller juste de l'autre côté de la route et en contrebas, on va trouver des quantités très importantes de déchets.
Et effectivement, il y a de quoi faire. Jean-Paul a déjà rempli un sac entier.
Ça flotte de tous les côtés. Il y a beaucoup de styrofoam, de plastique. On a trouvé des mégots de cigarettes, mais partout, des milliers de mégots de cigarettes. Un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau. Les gens ne se rendent pas compte. C'est du plastique. Parfois, on dit, ah oui, mais un mégot de cigarette, ça se défait en 5 ans. Non! C'est du plastique, le filtre, c'est un truc plastique, il y a des toxiques dedans.
Pour sensibiliser les citoyens, ce Belge a lancé le mouvement 10 minutes a day.
10 minutes a day, ça veut dire 10 minutes par jour, parce que quand tout le monde nettoierait pendant 10 minutes devant sa propre porte, la planète serait tout à fait différente. Maintenant, les déchets restent dans les rues et ça dure, donc il faut commencer par le début. Et c'est par soi-même, devant notre porte.
Comme Jean-Paul, ils sont plusieurs représentants d'ONG à avoir fait le déplacement. Ils viennent du Kosovo, des Pays-Bas ou encore d'Autriche. Et ils sont rejoints par quelques députés européens. Angélique Delahaye siège à la commission environnement à l'origine de la proposition de loi.
Le texte consiste à interdire les plastiques à usage unique, que l'on retrouve trop souvent dans la nature et qui ne sont pas biodégradables. On a fait un texte relativement équilibré, relativement raisonnable. Il ne faut pas condamner non plus des entreprises qui aujourd'hui fonctionnent avec avec du plastique. Il faut leur donner le temps de leur mutation, parce que derrière, n'oublions pas qu'il y a des milliers d'emplois à la clé, et on n'est pas là pour mettre sur la paille des milliers de citoyens européens.
La proposition de loi a été adoptée à une large majorité par le Parlement européen mercredi. Le Conseil de l'Union européenne doit lui se prononcer sur le texte d'ici la fin de l'année, mais l'interdiction n'entrera pas en vigueur avant 2022.
Et les eurodéputés qui ciblent aussi les déchets issus des cigarettes, les mégots jetés dans les rues sont devenus un véritable fléau depuis que l'interdiction de fumer s'est généralisée dans les lieux publics un peu partout en Europe. D'ailleurs, la région de Bruxelles vient de demander aux industriels du tabac de régler les frais liés à la collecte de ces mégots. Johanna Holstein.
200 000 euros, c'est le montant de la facture envoyée par la région bruxelloise à l'industrie du tabac. Un montant qui correspond en fait au budget alloué par les autorités pour faciliter la collecte des mégots. Des cendriers de poche ont par exemple été distribués lors de festivals de musique. Un millier d'étés noirs à cigarettes ont également été installés sur les poubelles publiques pour écraser votre mégot avant de le jeter dans la poubelle. Des actions qui ont un coût et qui doivent être supportées par l'industrie du tabac, selon la secrétaire d'État bruxelloise chargée de la propreté publique, Fadila Lanan. D'autant plus que l'industrie du tabac le fait déjà dans les deux autres régions du pays. En Flandre, par exemple, les autorités ont demandé aux fabricants de cigarettes de financer des cendriers de rue. Demande acceptée. C'est un véritable fléau qu'il faut éradiquer, insiste-t-on à la région bruxelloise. Ce fléau, ce sont les quelques 10 millions de mégots jetés chaque jour sur les trottoirs en Belgique. Des déchets particulièrement difficiles à ramasser en raison de leur petite taille, qui se coincent entre les pavés et qui mettent des années à se décomposer. Il est donc normal d'envoyer la facture aux fabricants de cigarettes, explique-t-on ici, mais on rappelle que les particuliers peuvent également être mis à contribution. Ceux qui jettent leurs mégots par terre et qui sont pris en flagrant délit sont passibles d'une amende de 50 euros, de l'argent qui permet aussi de financer les actions de propreté de la ville.
Music. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors on prend la direction de la Turquie avec vous ce vendredi, une voix féministe explosive.
Révélée en 2016 avec son deuxième album L'Istanbuliote, Gaye Su Akyol publie aujourd'hui une nouvelle collection de chansons qu'elle veut féministe, révolutionnaire et idéaliste, à l'image du parcours volontariste et de la personnalité bouillonnante de cette ancienne étudiante en anthropologie pour qui le mélange des genres est un manifeste. Sur son nouveau disque, qu'elle a écrit, composé et produit seule et qui paraît sur son propre label, on entend du rock influencé par les grandes heures du psychédélisme turc des années 60 et 70, des ballades plus traditionnelles, des guitares électriques et des claviers, comme du oud et des cuivres, un melting pot à l'image de la vitalité culturelle d'Istanbul que Gaye Su Akyol entend bien prolonger.
Bu ne biçim hayat, bu nasıl bir kafa, yatırır adamı hop falakaya, dere gibi akan dertte yüzeriz, uçuyoruz evet, çünkü güzel istikrarlı hayal, hakikattir ölüm. Var mı yoksa bir rüya mı? Derdim derdine ortak olsun. Aşk şarabın düşle donsun.
Rock'n'roll bitti.
Le nouvel album de la Stambouliote Gaïssou Akyol. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. À la réalisation et la mise en onde, Françoise Grelot et Richard Rifono. N'oubliez pas le changement d'heure dès lundi. Vous pourrez alors nous retrouver à 18h40, heure de Paris, sur les antennes.